à tous, bonjour l'EPI, bonjour les uns et les autres, ceux qui sont ici avec nous en présentiel, et puis vous qui êtes derrière votre écran, soyez les bienvenus sur notre chaîne, et dans le cadre de ce culte, on est heureux vraiment de vous accueillir. Au programme de ce matin, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur avec Sophie et toute l'équipe de louanges. Je reviendrai vers vous avec quelques informations et puis on écoutera le pasteur Raymond-Pierre Fagnard avec notre thématique que nous poursuivons aujourd'hui, ce troisième dimanche de l'Avent, un autre regard sur Noël. On verra quel regard les bergers portent sur ce premier Noël et quelles sont les instructions que nous pouvons en tirer. Ça sera vraiment très instructif et on espère qu'au travers de ce culte, vous serez encouragés, fortifiés, édifiés et bénis. Et nous allons commencer par le commencement. On va prier ensemble et demander au Seigneur de nous conduire dans ce temps de culte qui sera pour chacun, nous l'espérons, et nous prions pour cela, un temps d'encouragement. Nous te remercions, Seigneur, pour ce troisième dimanche de l'Avent, ce temps qui prépare notre montée vers Noël, qui nous rappelle que tu es venu dans ce monde pour apporter ta lumière et aussi le salut. Tu es le Sauveur. Notre désir ce matin, en nous approchant de toi, c'est de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Au travers de la prière, au travers du chant, de la louange, au travers du message qui nous sera apporté tout à l'heure. Merci Seigneur de préparer notre cœur et de nous accorder vraiment ta présence. Amen.
Bonjour, nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin et nous voulons louer le Seigneur avec vous qui êtes présents dans ce lieu et aussi avec nos frères et sœurs qui suivent le culte sur Internet. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant. Au préalable, je voudrais lire quelques versets qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe au chapitre 12. « Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui. » Faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on le fasse connaître sur toute la terre. Et c'est vrai, quelles que soient les circonstances de nos vies, qu'elles soient faciles ou plus difficiles, eh bien, nous voulons bénir le nom de Dieu. Et nous voulons dire, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Alors je vous invite, comme le dit ce texte, à chanter. Même avec des masques, on peut chanter. C'est moins facile, c'est sûr. Et le Seigneur regarde à nos cœurs. Alors, nos cœurs choisissent de dire « Béni soit le nom du Seigneur ».
Ta bienveillance, béni soit ton nom.
soit ton nom. Nous voulons élever ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Et nous avons ce matin aussi le privilège de pouvoir rejoindre nos voix. Vraiment, c'est un privilège, Seigneur. Et que nos voix puissent aussi résonner comme celles des anges autour de ton trône, Seigneur. Que notre louange ici sur la terre puisse aussi être comme celle qui est autour de ton trône, Seigneur. Nous voulons vraiment te louer, t'adorer, Seigneur. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. À toi toute la gloire, Jésus. À toi, Jésus, l'agneau de Dieu, toute la gloire que nous voulons t'offrir ce matin encore.
Seigneur, on loue le Seigneur.
d'abondante joie devant sa face. Je vous invite à écouter quelques versets encore tirés d'Ésaïe.
Le Messie et son règne. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture.
Oui, gloire à toi, Jésus. Tu es le Consolateur, le Prince de paix, le Libérateur, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, oui. T'adorer, adorer ta sainteté, ta majesté, Seigneur. Reçois l'offrande de nos cœurs.
semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Merci Seigneur pour ton précieux nom. Seigneur, je te loue pour cet amour que tu as pour chacun. Béni soit ton nom. Tu es tellement merveilleux. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom. Merci pour la croix. Merci parce que tu as payé pour tous mes péchés. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Secret en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près. Tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là.
Toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu
La terre est remplie de ta gloire. Tu es
puissant, la terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant, la terre est remplie de ta gloire.
Restons dans cette adoration aussi. Et avant de prendre le message, nous allons prendre un chant de Noël, pas très très connu, mais il y a des parties que vous connaissez très très bien, on est sûr. Alors voilà, on va ensemble louer notre Dieu, et avant l'écoute de ce thème aussi, d'un autre regard sur Noël. Noël, Noël, Jésus est né. On peut frapper dans les mains ensemble.
Chantons, chantons Noël.
qui nous met dans l'ambiance de Noël. Quelle joie. Si vous pouviez voir derrière vos écrans la joie de ceux qui sont là, eh bien, quel bonheur de pouvoir se retrouver. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit pour ceux qui nous regardent derrière les écrans et leur dire aussi qu'on les apprécie, qu'on veut les encourager? Voilà. J'espère que vous aurez pu chanter avec nous aussi l'un ou l'autre de ces cantiques et vous réjouir avec nous. Quelques informations avant d'écouter la parole. D'abord, vous connaissez maintenant le numéro de téléphone qui va s'afficher, 06 28 13 58 51. Numéro que vous pouvez appeler si vous souhaitez un renseignement, une information, nous contacter. Ou peut-être aussi par mail, contact@epi-strasbourg.eu. N'hésitez pas, vous avez besoin d'informations, vous souhaitez nous faire un petit coucou, n'hésitez donc pas, prenez contact. J'aimerais aussi vous remercier, on reçoit régulièrement au secrétariat des enveloppes, votre courrier, avec des chèques, mais surtout avec des petits mots vraiment craquants, où vous nous dites votre affection, votre amour et tout ce qu'on fait. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Merci pour vos cartes, merci pour les dons. Si vous souhaitez continuer aussi à donner, bien sûr, c'est possible. Vous pouvez aller sur le site www.epi-strasbourg.eu. Vous souhaitez réécouter les messages, vous souhaitez avoir des nouvelles, des informations, vous pouvez aller sur le site et puis vous pouvez continuer, bien sûr, à nous soutenir. Un grand, grand merci. Donc, bonne nouvelle, les cultes reprennent maintenant, comme on dit, en présentiel, avec bien sûr les précautions d'usage, avec les masques, avec le gel, avec les distances. Tout cela est bien mis en place et là, nous nous tournons vers les équipes d'accueil qui font un travail remarquable. Un grand, grand, grand merci à l'équipe d'accueil, un grand merci à l'équipe de ménage. Grand merci également à la technique qui, sans laquelle, bien sûr, le culte ne pourrait pas se tenir comme cela. Un grand, grand merci donc à ceux qui s'investissent. Je rappelle que pour participer au culte ici sur place, il vous faut vous inscrire. Et si vous inscrivez, respectez votre engagement, s'il vous plaît, ou en tout cas faites savoir que vous pouvez pas venir pour une raison ou pour une autre, parce que si vous ne venez pas, ça veut dire que vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Donc les places sont limitées et on vous demande donc, s'il vous plaît, de vous inscrire avant samedi, pour ceux qui s'inscrivent sur Internet, avant samedi midi, pour que nous puissions prendre toutes les mesures pour une bonne organisation. Et puis, nous avons pour le dimanche qui va suivre, dimanche prochain, une vidéo à vous montrer, une information à vous communiquer pour le culte particulier que nous voulons vivre ensemble dimanche prochain.
Ce Noël, venez découvrir l'histoire du premier Noël d'un point de vue totalement nouveau.
Bonjour à tous. Au nom du staff épisode et de toute l'équipe des moniteurs, nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre le dimanche 20 décembre à l'occasion d'un culte spécial.
À l'approche des fêtes de Noël, nous avons choisi de laisser leur place aux familles afin que chacun puisse être acteur et de vivre des moments spéciaux, des moments avec plein de surprises.
Covid oblige, il sera possible d'assister au culte depuis la plateforme YouTube et sur le site Épisode à la maison. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, il sera possible d'assister au culte en présentiel en respectant les gestes barrières. Mais ne vous inquiétez pas, pour les familles qui préfèrent vivre le culte à la maison, vous ne raterez rien.
Alors nous sommes très heureux de vivre ces moments ensemble, que nous soyons parents, enfants, grands-parents, jeunes, moins jeunes. Ces moments vont être magnifiques car ils seront connectés à notre plus beau cadeau de Noël, la venue de Jésus-Christ.
Sleeping.
Voilà, bravo. Bravo pour la vidéo. Je crois qu'il y a du Pierre Samuel derrière cette vidéo. Voilà, donc un grand bravo Pierre Samuel. Il est avec les ados ce matin. Donc les cadeaux se retrouvent aussi. Donc on est tous avec l'équipe pastorale sur le pont. Il y en a un qui va maintenant venir sur le pont ici, c'est Raymond-Pierre Fagnard, et qui va nous parler d'un autre regard, et notamment celui des bergers. Vous savez qu'on est dans cette série, un autre regard sur Noël, et je laisse la place à Raymond-Pierre.
Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et lui faire un sourire d'œil? C'est-à-dire, vous allez étirer votre bouche sous le masque pour montrer à votre voisin combien vous êtes content de le voir, votre voisin, votre voisine. Moi, j'ai le privilège de pouvoir vous faire un sourire en direct. Mais en tout cas, on est heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour fêter cette période particulière de Noël tous ensemble et fixer nos regards sur le message de Noël. Alors, on poursuit ce matin notre thématique « Un autre regard sur Noël ». Et il est vrai que cet autre regard, en ce moment, nous en avons besoin. En premier lieu, parce que ce Noël 2020, il a une odeur bien particulière, et pas celle du vin chaud cette année. Pas celle des pains d'épices, en tout cas pas trop, sur les étals de nos marchés de Noël. Le Covid-19 aura eu raison de nos traditions cette année. Pas de foule venue de nombreuses régions et de nombreux pays pour profiter de notre belle région d'Alsace et de sa féerie de Noël. Cette année, c'est restreint que la plupart d'entre nous passeront les fêtes en famille, un Noël plus intime, finalement beaucoup plus proche de ce que Marie, Joseph et les bergers ont vécu lors de ce premier Noël. Loin du tumulte de la foule, loin des guirlandes, loin des lumières, Noël est venu les rencontrer et les transformer à jamais. Ce matin, on va se pencher sur les bergers et sur ce qu'ils ont vécu lors de ce premier Noël. De la peur à la joie, du mépris à la considération, de l'hostilité à la paix. Voilà ce que ces derniers vont expérimenter au contact du Sauveur du monde. Et c'est ce que nous désirons que vous puissiez expérimenter dans vos réalités. On commence ce matin la lecture avec le premier point. Qui que nous soyons, Dieu nous appelle à venir à lui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'appelle à venir à lui? Allez, on peut le dire, on a le droit. Derrière l'écran, vous pouvez le dire à vos familles, Dieu nous appelle à venir à lui, qui que nous soyons. On commence la lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 8 à 9. On nous dit, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Tout commence ici dans les champs, avec des hommes en train de travailler. Un métier difficile dans des conditions pas simples. Le docteur David Jeremiah dit la chose suivante, le métier de berger obligé à supporter des pieds fatigués, de longues veilles et des odeurs désagréables. Il fallait protéger les animaux des troupeaux des animaux sauvages qui rôdaient dans le désert et être prêt à aller chercher les brebis qui étaient en train de s'égarer. C'est donc au cœur de leur quotidien qu'ils ont expérimenté le premier Noël. Et c'est ainsi que Dieu se manifeste à nous, au sein de notre quotidien, au sein de notre réalité. La vie avec Dieu n'est pas quelque chose de mystique en dehors de la vie ou de la réalité, mais c'est le ciel qui vient rencontrer la terre. C'est le ciel qui vient rencontrer la terre dans ce que nous vivons au quotidien. Notre Dieu désire investir nos vies et investir ce que nous vivons chaque jour. Certains voudraient échapper à la réalité, peut-être tout quitter, tout abandonner pour fuir la réalité. Pourtant, c'est au cœur de ta réalité que Dieu désire te rencontrer et y manifester sa présence. Nous sommes dans cette histoire probablement au printemps et non le 25 décembre. En effet, les bergers paissaient leurs troupeaux la nuit et c'est la saison pendant laquelle les brebis mettaient à bas leurs agneaux. C'est en 385 que le pape Jules Ier fixa la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre, en partie pour faire concurrence au Saturnales, qui était une commémoration païenne du dieu romain Saturne, caractérisée par l'immoralité et le chaos social. Alors on revient à nos bergers, ça c'était la petite parenthèse historique, mais les commentateurs expliquent que dans la société de l'époque, ils étaient des paysans situés en bas de l'échelle sociale. Et ils étaient même jugés comme malhonnêtes par les gens. Et pourtant, c'est eux que Dieu choisit. C'est eux qui ont l'honneur de la première visite. David Jérémia dira encore, ce privilège est accordé aux plus petits de tous, aux hommes les moins éduqués, à des paysans méprisés par l'aristocratie locale. Eux, couverts de sueur, rustres, peut-être parfois grossiers, dont les habits dégageaient la puanteur des champs, qui ne gagnaient presque rien et qui n'étaient certainement pas les bienvenus dans les grandes célébrations et dans les établissements respectables de l'époque. C'est eux que Dieu choisit. Ce sont eux qui, ce soir-là, bénéficient de la primeur de la grâce de Dieu. Qui que nous soyons, peu importe notre origine, peu importe notre condition sociale, peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire de nous, il y a une invitation ce matin de la part du ciel pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu nous cherche et nous invite à venir au pied de celui qu'il a envoyé parmi nous. Ce Noël différent peut être l'occasion pour toi, dès aujourd'hui, de t'approcher de Jésus. C'est en tout cas ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu. Ne pense pas que tu es disqualifié par ta vie ou par tes actes, si méprisable soit-il. Peu importe les situations dans lesquelles tu t'es peut-être mis, dans la boue dans laquelle tu t'es traîné. Le Sauveur du monde t'invite et t'appelle. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin ? Le Sauveur du monde t'invite et t'appelle. Deuxième point ce matin, venir à lui, c'est passer de la peur à la joie. Continue la lecture, Luc 2, 9 à 10. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Lorsque l'ange se manifeste à eux, nous voyons les bergers saisis de frayeur. Il s'agit d'une attitude normale et appropriée lors d'une visitation divine ou devant un acte puissant de Dieu. On l'a vu juste avant, la gloire de Dieu resplendissait sur eux. Le mot gloire vient du grec doxa qui nous parle de splendeur et d'éclat. La Bible mentionne à plusieurs reprises que lorsque les hommes ont vu cette gloire, cette lumière éclatante de Dieu, ils ont pris peur et se sont sentis indignes dans la présence de cette gloire. Docteur Timothy Keller dira la chose suivante dans la Bible, « Tous ceux qui ont été en contact direct avec Dieu ou qui ont rencontré des anges ont été pris d'angoisse et de frayeur. » Alors on va s'arrêter sur un personnage qui a vécu cette expérience particulière, il s'agit du prophète Ésaïe. On va juste lire 5 versets dans Ésaïe 6. Où on nous dit justement, on nous raconte ce temps que Ésaïe a vécu dans la présence de Dieu. On nous dit l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Le prophète Ésaïe dira, « Malheur à moi. » Je suis perdu à la vue du trône de Dieu et de ce trône entouré d'êtres angéliques. Qu'est-ce qui se passe ici ? La peur n'est pas juste liée à l'acte surnaturel qui vient de prendre place, mais elle est liée au rejet et à l'échec et à la perte de contrôle. Ésaïe dit « Je suis perdu ». Il sent que face à ce Dieu saint, à ce Dieu glorieux, Il ne fait pas le poids, il ne se sent pas digne. Il sait que dans sa vie, il a certainement dit ou fait des choses mauvaises. Il connaît ses erreurs, il connaît ses fautes, il connaît ses échecs, ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est se détourner de Dieu, c'est laisser Dieu, le laisser de côté. Ce n'est en faire qu'à notre tête par rapport à ce que Dieu déclare bon ou mal. Le péché ne représente pas seulement des mauvaises choses qu'on peut faire. Le péché, c'est aussi des bonnes choses qu'on fait avec de mauvaises intentions derrière. Des choses qui servent à servir mes propres intérêts. Le péché, c'est vouloir régner sur notre propre vie. C'est l'endroit où c'est le moi qui décide. On ne m'impose rien. Je ne veux ni Dieu, ni maître. Un slogan d'il y a quelques années en arrière qui revient un petit peu à la mode en ce moment. Timothy Keller dirait la chose suivante. Le cœur humain naturel veut régner. Et de ce fait, il est hostile aux prétentions souveraines de Dieu sur nous. Ce péché, cet orgueil en nous, nous pousse à croire que nous ne pouvons être heureux que dans la mesure où nous sommes les seuls à diriger nos vies. Le problème, c'est lorsque nous voulons maîtriser nos vies pour avoir la paix, pour ne dépendre de personne, alors nous avons constamment peur. Car nous constatons au fil du temps que nous sommes à la merci d'individus, à la merci de situations ou de forces que nous ne pouvons ni prévoir ni maîtriser. Qui avait vu venir la Covid-19 ? Qui avait vu venir la Covid-19 ? Si mon bonheur ne dépend que de la bonne image que les gens ont de moi, j'aurais peur de la perdre. Si les gens découvrent que bien souvent, je fais semblant. Et alors je vais tout faire pour masquer la réalité. Si mon bonheur ne dépend que de la place que j'ai dans la société ou dans l'église, j'aurais peur d'être rejeté si quelqu'un arrive et me fait de l'ombre. Alors je vais peut-être essayer de tout faire pour l'empêcher de briller, peut-être en le rabaissant avec quelques paroles glissées ici ou là. Si mon bonheur ne dépend que de mes réussites, j'aurais peur d'échouer et je serais peut-être même anéanti lors d'un échec. Voilà tout ce qui peut prendre place dans nos cœurs lorsque nous voulons siéger en Seigneur sur le trône de nos vies, à la place où Dieu devrait être. Timothy Keller dira « La grande frayeur éprouvée par les bergers n'est pas une simple peur du surnaturel. Elle naît de ce que les êtres humains se sentent profondément menacés lorsqu'ils sont en présence de la sainteté. Lorsqu'on est en face de la présence de Dieu, notre orgueil en prend un coup. » Nous nous sentons menacés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le résultat, la conséquence du péché, c'est la mort, cette séparation d'avec Dieu. Et effectivement, nous avons de quoi craindre. Mais regardez ce qui se passe au travers de la réponse de l'ange. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. L'expression « bonne nouvelle » était employée dans le monde gréco-romain pour l'annonce d'une nouvelle importante, d'une victoire militaire, d'une naissance, d'un anniversaire ou d'un couronnement impérial. C'est de cette expression que vient notre mot « évangile ». Oui, c'est une nouvelle importante. Celle de la venue du Sauveur, venu délivrer l'humanité et chacun d'entre nous du péché qui nous rendait esclaves, esclaves de mauvais comportements à cause de nos peurs du rejet, à cause de nos peurs de l'échec. Oui, c'est une victoire militaire, un ennemi invisible avec son armée a utilisé l'arme puissante du péché pour qu'on se rebelle contre l'autorité de Dieu. Mais Dieu a détruit la puissance du péché par le triomphe de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité, pour nous communiquer le moyen de triompher du péché au travers de notre confiance en lui retrouvée. Oui, c'est un couronnement impérial. Car en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, on lui permet de régner sur nos vies et d'être à la place où il doit être, aux commandes de nos vies. Aux commandes de nos vies. Et regardez comment Jésus nous montre l'exemple de ce qu'est la confiance. Le petit bébé dans la mangeoire, c'est le Seigneur. Réfléchissez un instant. Le tout-puissant Fils de Dieu abandonne tout contrôle pour nous. Il n'y a rien de plus dépendant qu'un bébé. Il ne peut rien faire par lui-même. Imaginez que le Fils de Dieu s'est fait changer les couches. Est-ce qu'on réalise la confiance que Jésus avait dans le plan de son Père, en acceptant d'être entre les mains d'un homme et d'une femme qui allait l'élever, abandonné à la confiance, de croire que le plan de son Père était ce qu'il y avait de meilleur, et de tout lâcher comme un bébé. Jésus accepte pleinement le plan de Dieu le Père en s'abandonnant entre ses mains et dans les circonstances que Dieu a conduites pour qu'il puisse devenir le sauveur des pécheurs que nous sommes. Amen. L'ange leur dit, regardez à l'évangile et vous n'aurez plus peur. Contemplez le message de l'évangile et vous expérimenterez la joie retrouvée. La peur qui a régné sur nos vies et qui l'a assombrie va s'effacer. Le récit de Noël, c'est le ciel qui veut intervenir dans l'histoire de ta vie et te dire n'aie pas peur. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire n'aie pas peur ce matin ? Est-ce qu'on peut dire à notre famille, peut-être sur internet, n'ayez pas peur, Jésus est au contrôle. Noël, c'est le récit de Dieu qui intervient dans ta vie et qui te dit n'aie pas peur. Luc 2, 11, on nous dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Dieu fait un don aux hommes. Le principe d'un don, c'est d'un cadeau, c'est que ça ne se mérite pas. Sinon, il s'agit d'un dû ou d'un salaire. Parce que Dieu aime chacun d'entre nous personnellement. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. D'une manière inestimable, il a fait don de lui-même. Jésus est le Messie promis. Le Messie, c'est le libérateur de son peuple et celui qui allait être appelé à exercer une autorité universelle. Et ce qui se produit ici est merveilleux. Lorsqu'on reçoit ce cadeau glorieux et qu'on l'accepte, ça vient remplir nos cœurs et ça nous transforme. Amen. Si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, mes amis, nous n'avons plus à craindre ce que les autres pensent. Est-ce qu'ils vont aimer ce que j'ai fait ? Est-ce qu'ils vont accepter ce que j'ai dit ? Parce que nous savons que nous existons dans son regard, pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous faisons paraître. Nous existons dans son regard pour ce que nous sommes. Vous savez, longtemps, j'ai souffert du regard des autres et j'essayais d'exister dans le regard de mes potes. Et c'est comme ça que je suis tombé dans des groupuscules néo-nazis à l'époque, dans le village où j'étais à fond dans cette idéologie, parce que j'essayais d'être aimé par un groupe et par un clan. Et lorsque j'ai, par toutes sortes de circonstances que je n'ai pas le temps de raconter ce matin, avec ma mère, où on a prié ensemble et où elle m'a invité à mettre Dieu au défi, et je l'ai fait. J'ai ressenti en lisant la Bible tout l'amour, il a changé toute la crasse, toute la haine qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai senti que j'avais plus besoin de faire semblant parce que j'existais dans son regard. J'avais plus besoin d'essayer de faire des choses pour plaire à un groupe ou pour plaire à quelqu'un parce que je plaisais à son regard. Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour que je puisse être sauvé, pour que je puisse avoir une nouvelle identité et que mon identité ne dépende pas de ce que les autres pensent, mais dépende simplement de ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Ce Jésus est un Jésus sauveur. Ce Jésus est un Jésus sauveur. Nous n'avons plus peur de l'avenir et des événements parce que l'on connaît ce Dieu qui est bon et qui a les choses en main. Alors nous pouvons lui faire confiance. Et nous ne craignons plus la mort parce qu'on sait qu'on sera avec lui pour toujours. Amen. Nous pouvons donc nous réjouir ce matin parce qu'avec lui, les chaînes de la peur tombent et laissent place à la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas du Covid, qui ne dépend pas de ce qui se passe, mais qui dépend de la présence de Jésus dans ma vie. Quelque chose qui dépasse les circonstances. Mon cœur est en paix parce qu'il est avec lui. Peu importe tout ce qui peut se passer. Troisième point ce matin, venir à lui, c'est expérimenter la paix. On poursuit la lecture. Luc 2, 12 à 14, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Paix sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire quand je vois ce qui se passe autour de moi ? On voit ici une multitude d'anges se joindre à cet ange qui était venu communiquer la bonne nouvelle. et il commence à louer Dieu et proclamer un message de paix sur terre. Qu'est-ce que la Bible entend par ce mot « paix » ? Il ne s'agit pas ici d'une sérénité, d'une vie sans problème. La paix signifie la fin de l'hostilité et des combats. Nous l'avons vu tout à l'heure, nos peurs et nos craintes agissent sur nos comportements humains et nous poussent à être hostiles à Dieu et aux autres puisqu'on se sent constamment menacé. Timothy Keller dira « L'hostilité avec Dieu amène une hostilité avec les autres. Nos désirs égocentriques amènent des tensions avec les autres. La paix n'existe pas sur terre parce que la paix avec Dieu n'existe pas dans la plupart des cœurs. Mais le message de Noël annonce que Dieu et les pécheurs sont réconciliés. Jésus est le médiateur entre le Dieu saint et les hommes pécheurs. Lorsqu'on reconnaît qu'on ne peut se sauver soi-même, et que nous avons besoin de son œuvre en nous. Dieu nous donne la force et la puissance d'agir différemment à notre tour et de procurer la paix. Il opère en nous une transformation, un changement de mentalité, en grec « métanoïa », un changement de raisonnement, de réflexion. Matthieu 5, 9 nous dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons bâtir la paix et mettre fin aux hostilités autour de nous. Voici la description d'un ouvrier de paix selon Timothy Keller. Ces ouvriers de paix sont ceux qui, ayant conclu la paix avec Dieu, ont dorénavant appris à reconnaître leurs défaillances, à abandonner leur orgueil et à aimer sans chercher à tout contrôler. Si tu dis que tu aimes ton voisin, quand il fait seulement ce que tu veux, tu n'es pas en train de l'aimer. Aimer sans chercher à tout contrôler. Reconnaître nos failles. Chercher les intérêts du collectif avant les nôtres. Aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Ça nous permet de vivre et de créer un climat de paix. Parce qu'il n'y a pas d'attente égoïste derrière. Ces différentes compétences sont d'une efficacité extrême pour désamorcer les conflits et rendre le pardon et la réconciliation possible entre les individus. Attention, je ne dis pas automatique. Ça rend le pardon et la réconciliation possible. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui dépendent des autres. Mais Dieu nous demande à nous de nous occuper de nos affaires. Donc, des choses qui sont sous notre responsabilité à nous. On ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de nous. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Comment il veut que j'agisse dans telle ou telle situation ? Comment il veut que je règle ce conflit que j'ai avec ma sœur ou avec mon frère depuis tant et tant d'années ? Comment veut-il qu'il veut que je fasse un pas peut-être vers mon enfant que je ne parle plus depuis 20 ans ? Ce qui est en notre possible, ce qui nous concerne. Plus le nombre de gens à croire à l'évangile et à agir en conséquence est grand, plus la paix régnera sur terre, avec Dieu et entre les hommes. Ma question ce matin, c'est voulons-nous expérimenter Noël ? Cela nécessite de ne pas simplement écouter, mais de vouloir le vivre. Venir à lui, c'est mon quatrième point, demande un pas de foi. Luc 2, 15 à 16, « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. » Les bergers ne se sont pas contentés d'écouter ce qui leur était annoncé, mais ils ont décidé d'aller voir l'enfant annoncé. Ils étaient déterminés à vouloir, à expérimenter ce qui venait de leur être révélé. Ils ont voulu en avoir le cœur net. Mettre sa confiance dans le message de Noël, c'est de croire que l'évangile est pour tous, de croire qu'il n'exclut personne, c'est de croire qu'il est possible d'abandonner son désir de contrôle et de placer sa confiance dans le Sauveur. C'est de lui remettre nos situations où la paix n'est pas présente, où l'hostilité est en train de faire rage. Peut-être lui faire part de notre orgueil, de nos limites, de nos souffrances, des choses que nous avons peur de relâcher. mais de les affronter en croyant que le Sauveur est bel et bien à mes côtés, comme il me l'a promis. Vous savez, Pierre a su qu'il pouvait marcher sur l'eau au moment où il a mis le pied en dehors de la barque. C'est là qu'il a su que c'était possible de marcher sur l'eau. Il a fallu un geste, il a fallu un acte, il a fallu une action, pas avant. Parfois, on veut toutes sortes de garanties avant d'agir. Mais la vie de foi est une vie d'obéissance. La vie de la confiance se manifeste par l'obéissance. Dieu t'appelle à être un artisan de paix sur ton lieu de travail, dans ta relation avec tes collègues, dans ta famille avec ton conjoint et avec tes enfants. Il est et il sera avec toi dans ce que tu entreprendras. Si tu le laisses être au contrôle des situations et que tu décides de les traverser sans vouloir les contrôler en y posant tes conditions. Ne cherche pas à poser tes conditions, mais fais-lui confiance dans la marche. Laisse son amour te porter sans rien attendre en retour et laisse-le être le maître des temps et des circonstances, celui qui contrôle toutes choses. Dernier point ce matin, venir à lui pour partager ce que nous avons vécu. Luc 2, 17 à 19, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Suite à cette expérience du premier Noël, les bergers ont partagé ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté et l'ont dit autour d'eux. Et on voit que ça a suscité de l'étonnement pour quelques-uns, mais ça a aussi encouragé la foi des autres. Et Marie en est l'exemple. Le texte nous dit qu'elle gardait le souvenir de ce qu'elle avait entendu et elle le repassait sur son cœur. Vous savez, le cœur, c'est le siège de nos pensées. Et nos pensées, elles ont besoin d'être alimentées par les œuvres merveilleuses que Dieu fait encore aujourd'hui, par les choses que Dieu a dites. Cela vient nous aider à tenir ferme dans notre foi et nos actions lorsqu'on traverse des temps plus difficiles. Ça vient alimenter notre foi. Je le dis souvent, mais notre vie, c'est comme une éponge. Quand on va être pressé, il va en sortir de ce en quoi on a imbibé l'éponge. Et on a besoin de s'imbiber des choses merveilleuses de Dieu, de l'œuvre que Jésus fait encore aujourd'hui. Ça vient booster notre foi quand la tempête fait rage. Ça nous permet de tenir et de croire que notre Dieu est bon, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il nous tient par la main et qu'il nous aide à avancer et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est fidèle. Nos expériences passées où nous avons vu Dieu se manifester, nous permettent de nous accrocher à sa fidélité et résister lorsqu'on passe des temps présents ou futurs qui pourraient être difficiles. Ne nous privons pas de partager ce que nous avons vécu avec Dieu autour de nous. Cela peut venir booster et encourager quelqu'un qui traverse des difficultés. Je pense que Marie, lorsqu'elle voit son fils à la croix, elle se souvient de la promesse que ce qu'il est en train de faire, c'est pour sauver le monde. Elle se souvient de la promesse de son Dieu qui dit « Tu vois, c'est dur, tu es en train de perdre ton enfant, celui que tu as mis au monde. Il est en train de donner sa vie, il est en train de saigner, ton cœur saigne. Mais il le fait parce que j'ai un plan plus grand pour l'humanité. » Elle se rappelle cette annonce que les bergers ont reçue et qu'ils lui ont transmise. Il est le sauveur du monde. Il est en train de donner sa vie pour sauver un grand nombre. Ça vient encourager sa foi lorsque la tempête est dure, lorsque les circonstances sont difficiles. Accrochons-nous à lui. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. On conclut ce matin. On vit un temps particulier. Mais comme le diraient les Québécois, on vit un Noël malgré tout. Noël malgré tout. Si les circonstances autour de Noël sont différentes cette année, il est possible pour chacun et chacune d'expérimenter malgré tout, de retrouver ce qui en fait la force. de passer peut-être du mépris à la considération, pour passer de la peur à la joie, pour passer de l'hostilité à la paix, encore cette année. Nous pouvons annoncer et incarner les conséquences de ce que signifie réellement Noël. Jésus au centre de nos vies. Alors oui, il n'y a pas de marché de Noël, il n'y a pas de vin chaud cette année. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour incarner Noël dans nos familles, avec nos amis, avec nos collègues, et de montrer qu'il existe autre chose avec Jésus-Christ. Que le message de Noël, au-delà des festivités, au-delà des courses folles dans les magasins qui vont commencer, c'est la venue du Sauveur du monde, celui qui change les vies encore aujourd'hui. Je crois que Dieu veut souffler sur nous ce matin en tant qu'Église. J'aimerais faire un appel ce matin alors qu'on a les yeux fermés. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent méprisables ce matin. Dieu te dit qu'il te considère. Peut-être qu'il y a des gens qui sont enfermés dans les peurs. Dieu te dit qu'il veut déverser sur toi sa joie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont enfermés dans toutes sortes de situations d'hostilité familiale et bien plus largement peut-être au travail. Il est celui qui veut faire de toi un artisan de paix. J'aimerais nous appeler ce matin à nous positionner symboliquement. On ne peut pas courir à la crèche ce matin parce que notre Seigneur, il est ressuscité, il est au ciel. Mais ce matin, on peut se lever à notre place. Pour dire oui Seigneur, je ne vais pas laisser le mépris m'enfermer. Je ne vais pas laisser la peur me rendre prisonnier. Je ne vais pas laisser la haine, l'hostilité ou la violence m'enfermer. Mais Seigneur, ce matin, je veux venir à toi comme les bergers sont venus pour expérimenter ce que tu veux faire dans ma vie pour cette année 2021 qui arrive. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin si tu sens l'appel de Dieu sur ton cœur? Je crois qu'il veut souffler, je crois qu'il veut nous remplir, il veut nous encourager encore ce matin. Tu peux venir au Dieu qui s'est incarné. Il t'accueille favorablement encore dans ce lieu ce matin. Et il t'appelle et il te qualifie. Et il veut t'envoyer comme un témoin là où tu es. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi t'emprisonner ce matin. L'espoir de Noël, il est pour toi dans ce lieu ce matin. Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Et ce matin, on veut venir l'adorer. Sa gloire descend sur nous. Maintenant, dans ton cœur, tu sens l'Esprit de Dieu qui vient te remplir maintenant. Il est là, il est à tes côtés. Tu sens sa joie et sa paix qui t'envahit maintenant. Le Dieu du ciel t'est favorable ce matin. Le Dieu du ciel t'est favorable ce matin et il t'appelle à être une lumière dans cette société. Alors que tous ensemble ce matin, alors qu'on va prendre ce chant au peuple fidèle, nous puissions nous approcher. Il est le roi des rois et il est avec toi. Alors que ce Noël, ma prière que pour ce Noël, tu puisses briller et incarner ce message de Noël. Noël n'est pas mort, mes amis. Le Covid n'a pas raison de Noël parce que notre Christ, il est ressuscité et il vit encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen dans ce lieu? Est-ce qu'on peut écrire amen sur Internet? Jésus est vivant. Alléluia.
don précieux.
Merci beaucoup, et mon Pierre, pour ce bon message. Merci pour la louange, Sophie, pour les chants, la prière. On espère que tout cela contribue à vous encourager et à faire comme les bergers, à vous mettre en route, à vous mettre en action, à lui faire confiance pour votre vie et pour votre quotidien. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien, ce sont sur ces dernières notes de chants et de musique que nous voulons conclure ce culte en vous souhaitant un bon dimanche à chacun et chacune. Et n'oubliez pas pour dimanche prochain de vous inscrire, comme on vous l'a dit, et donc à dimanche prochain.